Des années de recherche, des matériaux de haute précision, une technologie innovante, des compétences professionnelles au service de vos cheveux. Aujourd'hui, nos laboratoires sont fiers de vous présenter le produit ultime qui va révolutionner votre coiffure. Pour vous, nous avons créé...
Non merci, ça ne m'intéresse pas.
Mais enfin, des années de recherche, des matériaux de...
Non mais j'ai ce qu'il faut, ça ne m'intéresse pas.
Tous les progrès des pseudosciences nous préparent à leur dépendance. Décoiffez-moi. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Donc aujourd'hui, il y aura Sophie en face de moi.
Bonsoir.
José qui est revenu. C'est un handicapé, mais il est revenu quand même et on l'accepte parce qu'on l'aime bien. Et donc avec une belle béquille. Et puis Jean-Mathias, lui, il a piscine. Donc. Non, c'est plus sérieux que ça. Je suis méchant. Mais c'est habituel. Donc, ce soir, nous allons vous parler d'un auteur que vous connaissez peut-être, que je ne connaissais pas il y a peu. Enfin, j'avais lu 2-3 choses sur lui il y a bien longtemps, je les avais totalement oubliées. C'est un auteur qui s'appelle Murray Bookchin. Donc, ah oui, sinon José va m'engueuler. Le morceau que vous venez d'entendre, c'est un morceau de Dean Sinatra qui s'intitule Le Peigne. À ne pas confondre avec un groupe qui s'intitule, qui se nomme Peigne. D'accord ? J'ai failli faire la confusion. Donc, Murray Bookchin, qui est-ce ? Alors, c'est un anarchiste, ou un écolo, ou un écolo-anarchiste, comme on voudra, parce qu'il est d'abord passé par l'écologie avant d'arriver à l'anarchisme. Et on vous avait déjà parlé un petit peu des problèmes posés par le mouvement politique écologiste. Enfin, vous parlez des thèses, les problèmes que posent leurs thèses à différents niveaux. Et là, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant justement d'aborder un anarchiste qui s'était penché sur l'écologie et qui avait construit une partie de sa théorie politique là-dessus. Alors d'abord, on va donc suivre le plan étonnamment génial de Lagarde et Michard en faisant un petit peu sa vie, son œuvre. Et je vais vous parler donc de sa vie. Parce que elle est relativement intéressante. C'est un parcours qui est assez. Un petit côté anard, anard 19e.
Il a commencé comment?
Ben déjà, il a peu de chance, il est né à New York.
Ça va.
Et il est né dans une famille de Russes juifs. Enfin, je sais pas s'ils étaient pratiquants, donc je sais pas s'ils étaient réellement juifs. En tout cas, ils étaient d'origine de culture juive et même marxiste. C'était des gens qui avaient émigré de la Russie en 1905 parce qu'ils appartenaient au Parti socialiste révolutionnaire. Donc Murray Bookchin, lui, est né en 1921 et il a décrit, il a dit lui-même que il avait été un bébé en couche-culotte rouge. Parce que.
Mais pas noir,
pas du tout. Parce que sa grand-mère, elle, était membre donc, du Parti Socialiste Révolutionnaire. Ses parents étaient aussi des juifs révolutionnaires. Et en plus, il habitait dans un quartier où ils étaient tous, à peu près,
révolutionnaires.
Et c'est pour ça que dans les années 30, donc il a à peine 9 ans.
Il est révolutionnaire.
Il rentre déjà dans les jeunes pionniers.
À 9 ans.
Oui, les jeunes pionniers, qui étaient l'organisation de communiste de la jeunesse pour les enfants de 9 à 14 ans.
Génial.
Donc voilà, à 9 ans, engagé dans les jeunes pionniers. Et ensuite, il poursuit en rentrant dans la Ligue des jeunes communistes, évidemment, qui était pour les enfants un peu plus vieux. Et ça, il rentre en 1935. Et pour combler, comment dire, pour parachever sa formation marxiste, évidemment, il allait à l'école des travailleurs, qui était près de Union Square, et là, il a étudié le marxisme là-bas. Bon, plus tard, il sera redouté par les marxistes parce qu'il connaît très très bien leurs éléments de langage et leurs éléments théoriques.
Mais qu'est-ce que c'était ça? C'est une école après l'école ou c'était son école?
Je sais pas. C'était vu que c'est dans sa jeunesse, je pense que c'est plus ou moins il a peut-être appris à lire dans le manifeste du Parti communiste.
C'est pas mal.
Donc c'est quelqu'un. Mais alors après bon, s'il était resté communiste, il intéresserait sans doute beaucoup moins. Mais à la fin des années 30, il va rompre avec le stalinisme et il va passer du côté des staliniens qui ont perdu, à savoir les trotskistes. Excusez-moi s'il y a quelques trotskistes qui m'écoutent. Mais voilà, vous écoutez Radio Libertaire, donc il faut assumer. Il va joindre le Parti des Travailleurs Socialistes. Donc il reste quand même dans l'orbite communiste. Mm-hmm. Simplement, bon, il passe au trotskisme. Et après, bon, il va bosser, il va être ouvrier, en fait, dans les années 40. D'abord, il travaille dans une fonderie à Bayonne. Alors, Bayonne, c'est pas en France, c'est au New Jersey, il faut le savoir. Et là, il va commencer à s'investir aussi dans le syndicalisme. Et en particulier pour l'union des travailleurs électriciens, enfin des travailleurs d'électricité.
Mais il ne réfléchissait pas du tout à l'écologie à cette époque-là?
Pas encore. Pas du tout. Il est aussi, c'est aussi un recruteur pour le parti des travailleurs socialistes. Mais à ce moment-là, il ne réfléchit pas encore sur l'écologie. Ça va venir plus tard, même si c'est assez tôt finalement. Après ça, il travaille dans l'industrie automobile. Donc,
c'est pas très écologique.
C'est pas très écologique non plus. Et mais il participe aussi à la grande grève qui a eu lieu, qui a été faite par les ouvriers de General Motors en 45-46, donc juste à la sortie de la guerre. Après, il va plus ou moins s'éloigner du syndicalisme vers les années 50. Bon, il collabore avec un trotskiste encore. Ou non, un ex-trotskiste, je crois. Et oui, c'est ça. Ils sont détachés du trotskisme, donc ils se détachent de plus en plus du communisme finalement. Qui édite un magazine pour une démocratie de la satisfaction. Je pense que c'est on s'est pris la tête pour savoir comment traduire un terme là-dedans.
Mais satisfaction, c'est bien.
Voilà, la spécialiste me le dit, donc je suis rassuré. Et mais c'est pas grave si je disais une bêtise. Les auditeurs nous auraient envoyé des milliers de mails courroucés, mais bon, on aurait assumé.
Pas grave, on aurait répondu. Hein.
Voilà, on aurait répondu qu'on s'était trompé. Et donc là, pour l'instant, à ce moment-là, ils sont dans une période. Enfin bon, ils sont clairement utopiques, enfin utopistes.
D'accord, mais il est plus trotskiste en fait, là, plus
non.
du tout.
Non, il est vraiment pris ses distances. C'est sans doute peut-être à cause de son passage dans le syndicalisme, mm-hmm. puisque pour les communistes, le syndicat n'est rien de plus qu'une école du parti.
Ouais.
Et peut-être que dans le... Je sais pas, ça c'est moi qui suppute, hein, mais peut-être que... Il y avait quand même un truc qu'on a oublié, même si à ce moment-là il était déjà très affaibli. Il y a un syndicalisme américain anarchiste très très puissant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bon, après, il disparaît complètement pour le syndicalisme pourri qu'on connaît aujourd'hui. Donc, syndicalisme de petit four, c'est-à-dire on coopère, on négocie, et puis on est content.
Oui, mais sinon, ils perdent leur job aussi. C'est compliqué.
C'est un petit peu ça, oui, bah, c'est le problème de la bureaucratie. Donc, il y a des bureaucraties syndicales qui ne valent pas mieux que les autres. Ensuite, donc voilà, il va. Et donc à ce moment-là, c'est à l'intérieur de ce mouvement post-trotskiste qui va commencer à réfléchir à l'écologie, une société écologique décentralisée.
Et on sait ce qui l'amène à ça ? C'est la centralisation ou c'est l'écologie ou c'est quoi en fait ?
Je sais pas trop, parce qu'en fait, son premier article s'intitule, semble-t-il, Le problème des produits chimiques dans la nourriture.
Peut-être l'expérience personnelle.
Peut-être l'expérience personnelle, oui, il y a des chances, puisqu'il a quand même connu le monde industriel de très très près. Et ça, il le publie, donc il publie cet article déjà en 1952.
D'accord.
Ce qui montre aussi que les préoccupations écologiques sont bien assez tôt.
Assez tôt, en fait, oui.
Et ce n'est qu'en 1958, donc il a 27 ans, qu'il va se définir lui-même comme un anarchiste. Parce qu'il voit des parallèles, justement, entre l'anarchisme et l'écologie. Donc il semblerait que c'est compliqué parce que j'ai pas assez de détails sur sa bio pour savoir si en gros est-ce que c'est une espèce d'anarcho-syndicalisme qui l'a mené vers l'écologie ou si c'est l'écologie qui l'a mené vers l'anarchisme, je sais pas. Mais les parallèles, on les verra plus tard. C'est des trucs très très classiques dans l'anarchisme. Enfin, je peux les développer très rapidement. C'est l'idée que finalement on pourrait dire ça comme ça, du point de vue de Bookchin, l'écologie est impossible dans un cadre capitaliste, mais elle n'est pas forcément beaucoup plus possible dans un cadre communiste, étant donné que le communisme valorise l'État, et que c'est l'État qui est capable de mettre en œuvre de grandes entreprises, ou de protéger des grandes entreprises. La propriété privée capitaliste ne peut pas exister sans l'État. Mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé aussi en Union soviétique, on s'aperçoit que la nature a été au moins autant, sinon davantage détruite que dans les pays occidentaux.
Oui, complètement.
Et donc, à partir de là, si on articule une critique du capitalisme du point de vue de l'écologie, et qu'en même temps, qu'on voit que l'État est problématique dans l'organisation du capitalisme.
On critique l'État, forcément. Donc on vient à l'anarchisme.
L'État, et donc on arrive à l'anarchisme.
D'accord.
Je pense que c'est peut-être ce schéma-là.
C'est son cheminement, peut-être. Mais on n'est pas sûr.
C'est une hypothèse. Logiquement, ça me semble être à peu près ça, mais bon, ensuite, je ne sais pas lui comment il y a pensé. Et donc, il va publier un premier livre en 62, sous un pseudonyme. Et qui justement continue à découvrir, à décrire un grand nombre de soucis et de problèmes écologiques. Mais ce livre recevra très très peu d'attention du fait de son radicalisme politique. C'est-à-dire que la pensée écologique de Murray Bookchin va être rendue inaudible par son anarchisme.
D'accord.
Comme il est classé dans les radicaux.
Il était connu à l'époque en fait.
Non, mais en même temps, bon, son livre aura pas de
pas trop de lecteurs.
Pas trop de lecteurs, quoi. Ensuite, dans les années 60, il semble qu'il manifeste aussi pour les droits civiques. En 64, il participe à un congrès pour l'égalité des races. Là-dessus, c'est après ça, dans les années 64-67, il va fonder avec quelqu'un d'autre la Fédération des anarchistes de New York.
D'accord.
Les anarchistes de New York.
Il n'y avait pas avant lui, en fait.
C'est possible qu'il y ait eu, possible qu'elle ait disparu ou qu'elle ait porté un autre nom.
Qu'il ait refondé.
On va savoir. Il peut y en avoir.
Plusieurs.
Oui. Vu que les anarchistes américains ont une longue histoire, il ne faudrait pas parier qu'il n'y ait pas eu d'anarchistes à New York avant ça, dans les années 60. Il y a peut-être Rudolf Rocker déjà qui était passé par là, et un anarchiste allemand qui avait émigré aux États-Unis, mais je ne sais pas s'il était à New York. Donc, et là, il va publier un essai, c'est dans cette période qu'il publie un essai sur l'écologie et la pensée révolutionnaire. Qui introduit l'écologie en tant que concept dans les politiques radicales. Donc c'est très très tôt finalement, quand on regarde ça, 52, début des années 60, les préoccupations écologiques ne datent pas d'hier, à proprement parler. Il va aussi, en 68, bon, grande année, il va publier un anarchiste qui s'appelle, un magazine qui s'appelle Anarchos. Bon, donc c'est signé hein, aussi. Et là aussi ben, il publie des essais sur ce qu'on appelle la rareté pour la critiquer. Donc la rareté c'est l'idée que comme les ressources sont rares, il est quasiment normal qu'elles soient distribuées inégalement ou qu'on exploite des gens pour les exploiter, que la division du travail soit ce qu'elle est, etc. En gros, la rareté sert à justifier l'ordre social existant. Mm-hmm. Et donc, lui, évidemment, il critique la rareté de ce point de vue-là.
D'accord, donc il pense qu'il n'y a pas de rareté.
Il y a de la rareté dans un système de gaspillage.
D'accord.
Tout simplement, où la rareté a des
plus de rareté.
Où un tas de niveaux, la rareté peut être organisée aussi.
Oui.
Donc, bon, ça, c'est plein de choses. Et donc, il va aussi. Alors, c'est aussi quelqu'un qui participe à beaucoup de polémiques, en particulier contre les marxistes et pas seulement. Parce qu'il se méfie des communistes en bon anarchiste qu'il est, parce qu'ils ont tendance à noyauter les groupes de protestation.
Puis il en était aussi, alors.
Il en était, donc il connaît bien leur tactique. Hein. c'est justement des choses, mais j'y reviendrai, qui sans doute impliquent. Il s'oppose aussi au marxiste du point de vue de la révolution. C'est-à-dire que lui, c'est un gradualiste.
D'accord.
Il pense que la révolution, elle se fait par étapes. Un petit peu comme Élisée Reclus, un anarchiste français du 19e siècle. Enfin, que bon, une révolution, elle surgit qu'à la suite d'une longue suite d'étapes. Et il est assez opposé à la prise du pouvoir à la façon bolchévique, ou blanquiste, parce que finalement, Lénine était. Comme disait un commentateur un peu méchant, le léninisme, c'est du blanquisme à la sauce tatar. Je pense que ça, oui, la vision de la révolution par les communistes lui déplaît aussi. Il s'en méfie, il se méfie de la politique lutte contre classe contre classe, de la dictature du prolétariat, de la moralité très puritaine aussi des communistes américains. Et même le slogan « Tout le pouvoir aux soviets » ne le trouve pas forcément grâce à ses yeux. On verra que plus tard, ça l'amènera à rompre en partie, peut-être avec certains anarchistes. Et donc, à partir de là, il va devenir, dans les années 60, début des années 70 plutôt, il va surtout enseigner. En fait, il devient prof.
Il devient prof de lycée, de collège,
Alors, plus ou moins, plus ou moins dans une école, puisqu'il y a une école radicale de contre-culture.
D'accord, une école de contre-culture, c'est pas mal ça.
C'est pas mal, faut le faire quand
c'est
même.
C'est pas un peu contradictoire dans le nom quand même, une école de contre-culture.
Pas forcément, ça dépend ce que tu mets derrière culture, je crois.
C'est marrant.
Donc c'est une école qui est fondée, qui était à Manhattan, qui reste encore, il est très très new-yorkais.
Donc on peut aller à l'école de contre-culture maintenant, on sait pas.
C'est en 70, à mon avis.
Peut-être essayer.
Non, elle a dû être fermée par manque de subventions.
D'accord,
il y a quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une expérience qui ne va pas durer longtemps, puisqu'en 71, il s'en va dans le Vermont.
D'accord.
Pour essayer de mettre en pratique ses idées décentralisatrices avec quelques copains. Donc bon, j'imagine, il est peut-être parti élever des chefs dans le Vermont, allez savoir. Mais bon, ça non plus, cette expérience ne va pas durer longtemps, puisqu'il va dans une université... en 73 pour faire des cours sur la technique, sur la technologie.
Donc là, ah, il savait faire ça aussi.
C'est-à-dire que la technologie, on y viendra plus tard, c'est aussi un des thèmes sur lesquels il réfléchit. Et donc j'imagine qu'il n'y était pas en tant que technicien, il était en tant que...
Il organisait.
Que philosophe, penseur, qui tenait un discours un peu général sur qu'est-ce que la technique, son rapport à la politique, qu'est-ce qu'on peut en attendre, etc. etc. Voilà, donc il va toujours en fait plus ou moins enseigner dans des trucs, dans l'Institut pour l'écologie sociale, donc il va devenir le directeur en 74. Après, il est engagé dans une autre université. Bon, voilà. Donc là, il est, on peut dire que c'est un intellectuel, entre guillemets, à plein temps. Ce qui fait intéressant, en 77, il publie un truc sur les anarchistes espagnols avant 36.
Un truc, c'est quoi? C'est une biographie?
C'est une histoire. Une histoire du mouvement anarchiste espagnol.
D'accord.
Avant la Révolution, jusqu'à la Révolution de 36. Et alors, un petit détail dans sa bio qui est un peu étonnant, il a même quelques liens avec le mouvement libertarien.
Pourquoi c'est étonnant? Ça, c'est une question
parce
bête.
Parce que si par exemple tu étudies l'anarchisme espagnol, les libertariens te font vomir.
D'accord.
Normalement, enfin si t'as un petit peu d'empathie pour les anarchistes espagnols.
D'accord.
Parce que les libertariens, c'est des gens qui sacralisent la propriété privée et qui décident que en gros toute solidarité organisée collectivement sans un accord express de l'individu est purement et simplement du vol.
D'accord.
C'est-à-dire que pour eux, l'égalité ne repose que sur la coercition.
Alors pourquoi ils s'intéressent à ces gens?
C'est ça, je sais pas, mais c'est étonnant. Quoi. Il a contribué quand même à un truc des libertariens. Alors peut-être que le mouvement naissait, je pense, puisque c'est au début des années 70. Un gros bouquin fondateur du libertarianisme est publié en 71. C'est État, anarchie et utopie de... J'ai oublié le nom de l'auteur. Ça m'en viendra peut-être un jour. Mais bon, c'est un bouquin qui, il y a le titre, État, anarchie et utopie. Effectivement, c'est une critique en règle de l'État, mais ça s'accompagne de la valorisation de l'individu propriétaire.
D'accord.
Donc je doute qu'on puisse, enfin, que ce soit très compatible. Voilà, donc pour ça, donc ça c'est un petit truc quand même, un petit truc étonnant. Je passe parce que je ne vais pas vous raconter toute sa vie quand même, mais bon, c'était pour le parcours m'intéressait au sens de ce type qui part d'une famille juive communiste, donc Murray Bookchin, l'auteur dont on va vous parler ce soir, qui part d'une famille juive communiste, qui est ouvrier, qui devient anarchiste,
écologiste,
à travers l'écologie et qui finit professeur. C'est un parcours rigolo. Ça donne un peu de substance au mec aussi, je trouve.
Et là, tu vas nous parler du livre.
Et donc, à la fin, ce qu'il faut savoir, c'est que la fin de sa vie, dans les années 90 à 95, il va un petit peu scolter avec les anarchistes américains, parce que ils leur reprochent leur primitivisme, c'est-à-dire l'idée que finalement l'humanité était en bien meilleur état avant l'âge de pierre, leur rejet de toute technique.
Ça devrait aller avec l'écologie, non, quand même, le primitivisme?
Pas forcément,
pour le coup,
justement.
Non, ça va pas avec.
Pas nécessairement, parce
d'accord.
que en gros, si tu dis que pour bien vivre il faut renoncer au feu, c'est un petit peu compliqué.
C'est un peu compliqué, mais après,
surtout si tu veux l'appliquer.
Le problème, c'est le progrès technique aussi.
Alors justement, je reviendrai pour Bookchin. Le progrès technique n'est pas forcément un mal en soi.
D'accord.
Ça dépend après qu'est-ce qu'on en fait.
D'accord.
Et il va critiquer aussi finalement, il va finir par rompre avec le mouvement anarchiste américain parce qu'il leur reproche d'être individualiste. C'est-à-dire que lui, il est pour un anarchisme social, ce que l'on appellerait peut-être ou l'anarcho-communisme, peut-être plutôt l'anarcho-communisme. Il ne croit pas justement à l'individualisme et à la toute-puissance de l'individu. Ce qui rend d'autant plus curieux sa brève rencontre avec les libertariens qui sont ultra-individualistes. Et donc il va rompre publiquement avec eux en 99. Il parlera à partir de là plus de communalisme libertaire, enfin de municipalisme libertaire, mais de municipalisme de communalisme. Il remplacera le terme.
D'accord.
Voilà. Et
il
donc,
se dit toujours, enfin, il se dit toujours anarchiste ou plus en fait.
Non, à partir de là, il n'est plus trop anarchiste parce que ben il veut rompre avec le avec l'anarchisme américain.
D'accord.
Mais il rompt avec l'anarchisme américain pour des
motifs. Tous les anarchismes.
Mais pas avec tous les anarchismes parce que tous les anarchistes ne sont pas individualistes.
D'accord.
Simplement, je pense que dans le contexte américain, peut-être que d'un point de vue politique, il n'avait pas trop le choix.
Ouais.
Si tous les anarchistes là-bas étaient individualistes, c'était pas possible pour lui de rester avec eux. Donc voilà, donc à partir de là, bon, il reste prof, il publie encore tout un tas de choses, et il mourra en 2006 à Burlington, à l'âge de 85 ans. Voilà. Donc voilà pour un petit peu la vie de Murray Bookchin, donc l'anarchiste écolo ou l'écolo anarchiste américain. On va faire une pause musicale parce que je vous ai bien saoulé, et on reprend juste après. Bien sûr, Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Et après, donc, ce long tunnel sur la vie de Murray Bookchin, l'écolo anarcho-américain, on va passer un petit peu aux idées.
Mais donc, tu dis pas le nom du morceau, quand même, qu'on a écouté ?
Ah, si, si, mais j'aime bien...
Parce que c'est marrant.
En fait, j'aime bien faire rager José. Donc, vous venez d'entendre les Trotsky Nautiques, voilà, et c'était le morceau Maïs. Je pense que José fait exprès de choisir des noms, qui, enfin, des groupes qui ont des noms ridicules. Et avec des calembours totalement hallucinants. Donc voilà, c'était les Trotsky Nautiques. C'est peut-être aussi une référence subtile à la jeunesse trotskiste de Murray Bookchin. Allez savoir. Avec José, tout est possible. Donc, j'en étais sûr, il l'a confirmé. Voilà, on ne peut pas faire confiance à José pour en faire une émission sérieuse. Il faut toujours qu'il balance des vannes. Voilà, alors... Les idées de Murray Bookchin, l'école anarcho-américain. Alors je me suis surtout fondé sur un bouquin qui est sorti aux éditions Le Passager clandestin. C'est un livre où vous avez des extraits de textes de Bookchin et une toute petite intro qui présente les idées en général. Voilà, donc ça s'intitule Murray Bookchin pour une écologie sociale et radicale. C'est au Passager clandestin. Voilà, il y a deux autres bouquins qui pourraient vous intéresser. Toujours de Murray Bookchin, évidemment. C'est Qu'est-ce que l'écologie sociale ? Atelier de création libertaire, éditeur, et puis Murray Bookchin, une société à refaire, dans la collection Éco-Société. Vous retrouvez toutes les références sur le site Gurdulu, voilà, tenu par José, s'il n'a pas mis de mauvaises blagues dessus, ce qui est toujours possible. Ensuite, quelques généralités. Il me regarde en faisant la moue.
Sa vie, son œuvre, grande œuvre, son œuvre.
Voilà, maintenant grande œuvre, son œuvre.
J'ai compris.
Oh. Je suis trop clair. Mes talents pédagogiques sont infinis. Donc, d'abord quelques généralités quand même, pour situer un petit peu le truc qui me semblait intéressant, c'est que la pensée politique actuelle est encore surdéterminée, enfin, conditionnée en partie par des théories élaborées au XVIIIe et XIXe siècle. historiques que sont le libéralisme, le communisme, mais aussi, dans une moindre mesure, mais quand même, l'anarchisme. Et toutes ces théories, sur lesquelles la plupart des mouvements politiques reposent aujourd'hui, sont finalement, ont été élaborées dans un moment où on était porté par l'espoir que la production industrielle en plein essor permettrait finalement une société de l'abondance pour tous. Alors cette croyance était plus ou moins sincère, sans doute suivant les courants politiques, mais en même temps elle était mise en avant.
Mais ça va contre l'idée de la rareté, ça, en fait ?
En partie. Effectivement,
parce que les ressources, tu peux en fabriquer encore plus.
Elle sera plus mise en avant, finalement, fin 19e, par quelqu'un comme Malthus, qui va prétendre que que l'accroissement de la population se fait dans un ordre géométrique, alors que l'accroissement des ressources est dans un ordre arithmétique. Okay. C'est-à-dire que la population double, alors que l'accroissement des ressources, lui, est beaucoup plus lent. C'est à partir de là que tout un tas d'arguments sur la rareté sont mis en avant. Au moment où le machinisme commence à s'établir, on a plutôt l'idée que la machine va libérer l'homme et va produire une espèce d'abondance universelle. Alors, bon, sont-ils sincères? Je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, on peut évidemment penser que ces promesses ont fait long feu. Et que tout ce qui nous avait été promis, pas grand-chose de ce qui a été tenu n'a été tenu. Même si, ça pourrait se discuter. Cependant, beaucoup continuent d'y croire ou feignent de croire que l'abondance, c'est quelque chose de possible.
Notamment avec les énergies renouvelables, par exemple.
Oui, les énergies renouvelables, les OGM, tout un tas de trucs, nous sont vendus quand même avec l'idée que...
On peut faire encore mieux, encore plus.
On peut faire plus et finalement, on va peut-être résorber ces 800 millions de crèves-la-faim qui parsèment le monde.
Et donc, il n'y a pas besoin de décroissance?
Pas forcément. Non, au contraire. D'accord. La solution, c'est la croissance, évidemment, dans ce cadre-là.
Croissant.
C'est toujours la croissance. Alors, cependant, pourquoi est-ce que ces promesses n'ont pas été tenues? Alors, on peut interpréter ça de différentes façons. On peut y voir un obstacle politique, type que une minorité attachée à ses privilèges aurait besoin d'appauvrir finalement la majorité pour les conserver, voire les étendre. C'est-à-dire que l'argent n'est pas de nulle part, il naît du travail, et très souvent, il est du travail des autres. Et évidemment, dans ça, ce serait plutôt une pensée entre guillemets de gauche. Il faudrait justement combattre cette minorité qui accapare le produit du travail commun. On peut aussi se défendre à la manière capitaliste en disant que la prospérité repose sur la capacité des plus riches à investir. D'accord ? Et que justement, c'est ce qu'on nous serine aujourd'hui à peu près dans les médias. Hein. Oui. En gros, c'est parce que les pauvres patrons n'ont pas assez d'argent à cause des horribles cotisations sociales qu'ils ne peuvent pas investir et qu'il y a du chômage.
D'accord.
Et que la croissance repose sur l'investissement des plus riches. Bon, ça, c'est la manière capitaliste de défendre le truc.
C'est maintenant.
Bon, ça fait 30 ans qu'ils nous le disent et ça fait 30 ans qu'on est soi-disant en crise. Bon, ça ne marche pas. Mais on continue d'essayer. On doit trouver un truc comme ça chez les Shadok. Quand une solution ne fonctionne pas, essayez-la jusqu'à ce qu'elle fonctionne. ce qui n'est pas très, très forcément de mon sens, mais peu importe. Alors, l'originalité finalement des écolos par rapport à ce schéma-là, c'est qu'ils auraient plutôt tendance à dire que l'obstacle est inscrit dans la nature même. C'est-à-dire que étendre
ça aussi c'est un argument. L'obstacle à la croissance.
Oui, l'obstacle à la croissance. Au bout d'un moment, ce sera le mur écologique.
D'accord.
On n'y a plus de pétrole.
Mais ça, le capitalisme le sait un petit peu.
Le capitalisme n'est pas une personne, donc il y a plein de petits capitalistes qui espèrent s'en être plein les poches avant de se prendre.
Ils le savent quand même.
Oui, il y en a certains qui font des calculs pour voir combien pourrait leur rapporter la fonte des pôles, parce qu'il y aurait de nouveaux chemins. Il y aurait de nouveaux chemins maritimes.
Oui, donc on peut faire des sous avec ça aussi.
C'est
pas mal.
Ils le prennent en compte dans leurs calculs, mais c'est aussi sur comment gagner de l'argent. J'imagine aussi qu'il y en a quelques-uns qui spéculent sur sur peut-être l'épuisement des réserves de pétrole et qui se disent quelle forme d'énergie nouvelle on va pouvoir vendre.
Les renouvelables.
Donc renouvelables ou pas, enfin.
D'accord, ça, gaz de schiste, etc.
Ouais, par exemple. Alors, l'argument écologiste tel qu'on l'entend assez souvent, il peut aussi aboutir à différentes choses qui sont pas nécessairement révolutionnaires. Ou du moins, qui peuvent être tournées en plusieurs sens. Ce serait par exemple l'idée que étendre la prospérité occidentale, qui est elle-même discutable et critiquable à l'état de niveau, à la population mondiale, ça serait dangereux. parce qu'il ne peut aboutir qu'à l'épuisement extrêmement rapide des ressources naturelles disponibles.
Alors oui, mais est-ce qu'on peut pour autant empêcher les autres pays de vouloir la prospérité occidentale?
Je vois pas trop comment.
C'est ça le problème.
Mais bon, tu sais, c'est l'argument qu'on entend souvent, si les Chinois vivaient comme les Américains, en gros, les ressources mondiales seraient épuisées en 10 ans.
Mais sauf qu'on peut pas empêcher les Chinois de vouloir avoir des automobiles, manger des steaks, etc.
Non, il faut compter sur la dictature chinoise. Pour nous sauver, voilà, en gros on est foutu. Donc, alors de ce point de vue-là, il est possible, mais on pourrait quand même dire qu'il est assez évident, à des tas de niveaux, que l'écologisme est potentiellement opposé au principe même du capitalisme.
Voilà, c'est là que c'est compliqué quand même.
C'est là que ça se complique. Parce que, à la fois, ça peut servir à justifier des inégalités, mm-hmm. du type tout le monde n'a pas droit aux mêmes choses.
Donc, empêchant la prospérité, chez certains. Pour la planète.
Pour la planète. Mm. Donc, ça peut justifier des inégalités. Ouais. Mais en même temps, ça peut être aussi une arme de destruction massive contre le capitalisme. En termes idéologiques, en tout cas.
Ça va beaucoup plus loin, quand même, comme penser ça.
Oui, oui, oui. Mais c'est justement ce que va développer Bookchin, l'écolo anarcho-américain. Puisque. Les principes même du capitalisme, c'est quoi? Ça va être justement la croissance économique à tout craint, croissance infinie, la production industrielle et la consommation de masse, qui aboutit évidemment à un gaspillage aussi de masse. Mm-hmm. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, la plupart des mouvements écologistes qui aujourd'hui sont représentés aux élections et dans les gouvernements européens se coulent parfaitement dans le modèle libéral.
Oui, c'est des écologistes capitalistes, en fait.
C'est un libertaire libéral.
Mm-hmm. C'est pas mal, ça.
C'est pas mal. Et donc, bon, ils vont s'opposer assez mollement en France, par exemple, au nucléaire. Mais ils défendent des modèles de développement durable qui sont censés rendre le capitalisme écologiquement responsable.
Alors, du coup, c'est bête comme question, mais à l'intérieur des mouvements écologistes en France, on n'a pas des gens qui s'opposent à ça et qui seraient plutôt
j'imagine
sur la lignée
si.
De
Bookchin. Il y a les décroissants. Il y a tout un tas de... J'imagine que ce serait étonnant qu'il n'y ait pas des gens qui... Justement, ils sont convaincus que le capitalisme est l'ennemi de l'écologie. Ensuite, c'est
parce
pas
que
eux.
Les écolos veulent gouverner aussi.
Ensuite, c'est pas eux qu'on voit au gouvernement, ouais. C'est pas eux qu'on voit au Sénat. Il y a aussi toute une frange écologiste qui vend sa soupe bio pour accéder à des petits strapontins, des petits marocains, tout un tas de choses qui sont très très gratifiantes pour la gente politique. Et donc, Bookchin, lui, fait partie de ceux qui vont essayer de développer au maximum le potentiel politiquement radical, radical de l'écologie, en tout cas. Alors, je pense qu'il n'est pas le seul.
Il a été suivi un petit peu?
Alors, très peu, lui. Ouais. Sans doute parce que il est
aux États-Unis.
Il est déjà aux États-Unis. Et puis ensuite, il est peut-être arrivé un peu trop tôt. Il faut savoir. Mais bon, comme justement il arrive à l'écologie par l'anarchisme, je pensais que c'était un petit peu intéressant d'en parler. Alors donc j'ai fait...
Et il n'y a pas d'anarchisme sans écologie pour lui?
Je pense que ça va ensemble en fait, dans son esprit. Et c'est vrai que je disais que l'anarchisme était à certains niveaux, un peu comme le capitalisme et le communisme dans l'espoir. J'ai vendu l'abondance pour tous. En même temps, j'avais mis un bémol parce que des gens comme Kropotkine ou comme justement Élisée Reclus étaient des géographes et avaient déjà plus ou moins quand même.
J'avais vu venir.
Une conscience de la nature et des dégâts qu'on pouvait lui infliger. De la même façon, Russell, un peu plus tard, déjà dans les écrits des années 20, quand il est très très proche des anars, même s'il est. Il ne sera jamais anarchiste.
Il y pense aussi.
Il pense aussi déjà.
D'accord.
Justement parce que là, il commence à s'inquiéter de cette production industrielle massive et il se dit que ça ne va peut-être pas pouvoir continuer très très longtemps quand même, toute cette affaire. Bon. Ensuite, donc bon, j'ai divisé un petit peu sa doctrine très très rapidement. Il faudrait que vous alliez voir ses livres pour en savoir davantage en 4 points. Voilà, c'est un programme en 4 points.
Petit 1.
Donc, alors est-ce que je lance le petit 1? On va peut-être faire une pause musicale avant. Ce sera très courte, mais ce sera bien pour vous reposer. Ça fait
15 minutes.
Stop.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, consacrée, donc émission consacrée ce soir à Murray Bookchin, un écolo-anarcho-américain, et je me suis appuyé essentiellement sur un livre qui est publié par le Passager Clandestin, qui s'intitule Murray Bookchin, pour une écologie sociale et radicale. Vous trouvez des extraits de texte dedans et une petite introduction. Donc c'est un livre assez court, assez rapide à lire, voilà, si vous voulez, pas si cher que ça, je crois, qui peut vous informer si cela vous intéresse. Donc, premier point, j'avais dit que je faisais un plan en 4 points.
Petit 1.
Donc,
j'attends.
Petit 1, voilà. Première thèse de Bookchin, qui est assez intéressante, je crois, c'est que la domination humaine de la nature est une conséquence de la domination de l'homme par l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre l'autorité en politique, on pourrait dire ça comme ça, pour l'autorité politique, la centralisation des pouvoirs, et l'exploitation à outrance de la nature.
Et l'homme se met d'abord à dominer l'homme, et en fait après,
c'est ça.
Seulement il peut dominer la nature.
Et ça c'est un phénomène qui est pré-capitaliste. Mm-hmm. C'est pas un truc qui a été inventé par le capitalisme. Alors, moi j'ai pas trouvé d'exemple dans Bookchin, mais j'en avais un qui venait de David Graeber, un anthropologue anarchiste américain. C'est l'exploitation minière à grande échelle qui a eu lieu dans l'Antiquité, et qui n'a été rendue possible finalement que par l'institution de l'État, de l'armée et de l'esclavage. Donc, en gros, l'État avait besoin d'entretenir des armées. Pour entretenir ces armées, il avait besoin de les payer. Parce que, comme ces armées c'était des mercenaires qui n'avaient pas forcément des liens là où ils étaient, ils ne pouvaient pas échanger comme les autres échangeaient. Donc, ils avaient besoin de monnaies troussantes et trébuchantes. Et donc, les soldats servaient à faire des esclaves qui servaient à entretenir les soldats. Mais tout ça, c'était au prix.
Ça tournait.
Ça tournait, quoi. C'était aussi au prix d'exploitation minière, qui est une exploitation souvent particulièrement destructrice. Pour
ça a vraiment détruit la nature dans l'Antiquité, on sait pas.
Non, je pense pas, mais parce que c'était pas assez à grande échelle, ouais. Mais malgré tout,
c'était déjà les précurseurs.
C'était des petits précurseurs, mm-hmm. Ça devait être des exploitations à ciel ouvert. Bon. Ils creusaient, quoi. Donc, ça suppose effectivement tout un tas de choses qui relèvent du pouvoir de l'homme sur l'homme, mm-hmm. L'être humain sur l'être humain. Et ce qu'ajoute Bookchin, là je le cite, c'est que cette tentative vieille de plusieurs siècles culmine dans le capitalisme moderne, car c'est seulement lorsque les relations communautaires, féodales ou paysannes se furent dissoutes en relations mercantiles que la planète elle-même se trouva réduite au statut de ressource à exploiter. C'est-à-dire, c'est le moment où on considère que même la Terre, finalement, est un bien échangeable. Ce qui n'était pas qui pendant des siècles n'a pas du tout été le cas.
C'est-à-dire qu'avant, c'était une espèce de respect pour la Terre.
Non, ou... non, c'était pas un respect. Non, il n'y avait pas du tout ce genre de truc. C'était plutôt.
On n'avait pas compris tout ce qu'il y avait à en faire.
Si, on l'exploitait très très bien. Mais enfin très très bien, on l'exploitait.
Et parce qu'on peut justifier par la religion aussi si Dieu a mis sur Terre tout ça pour qu'on en.
C'est ce que dit aussi Bookchin. Il dit que ces tendances ont été favorisées par l'antinaturalisme qu'il appelle l'antinaturalisme chrétien. Mm-hmm. C'est l'idée que effectivement que la nature est donnée à l'homme pour être exploitée.
Ouais, ça c'est encore le cas d'ailleurs. C'est un argument très très fort maintenant.
Ah ben, on le trouve dans la Bible. Ouais. C'est le début, c'est la Genèse. C'est
Dieu qui donne les
animaux et tout, mais c'est pas étonnant. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette idée, l'idée de d'exploiter la nature en exploitant les hommes qui peuvent justement faire le boulot, le seul boulot. C'est une idée qui vient avant le capitalisme. Simplement, le capitalisme la porte à son apogée et en transformant tout.
En richesse potentielle.
En richesse exploitable potentielle.
D'accord.
Et donc, ici, comment est-ce qu'on peut interpréter cette thèse? Moi, je le vois comme ça, c'est que on peut dire que l'homme ne détruit pas naturellement son environnement. Cette destruction est la conséquence politique d'une organisation sociale fondée sur la domination et l'exploitation de la majorité par une minorité. Ici, c'est une sorte de... souvent, on nous compare aux éléphants ou aux criquets. Comme si c'était un phénomène naturel, du type l'humanité est destructrice de son milieu naturel. Mais pour Bookchin, c'est pas le cas. C'est pas l'effet de la nature humaine, c'est l'effet d'une organisation politique.
D'une décision, d'une série de décisions.
Tout un tas de décisions qui sont prises par certaines personnes. Et donc, comme je le disais, la destruction de cet environnement, de notre environnement, va être accentuée par les caractéristiques propres au capitalisme.
Alors, comment ça marche, ça?
Alors, ça, deuxième, j'en arrive donc à mon deuxième point.
Petit 2.
Petit 2, tu peux le remarquer. C'est que, je vais y venir à cette idée que c'est accentué par les caractéristiques spécifiques du naturalisme. Mais j'aborde ça par mon deuxième point, qui est l'idée que, pour Bookchin, en fait, on ne peut pas rendre, on peut pas imaginer un capitalisme vert.
C'est pas possible. Mais pourtant, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont verts
et capitalistes.
Également capitalistes, ouais.
Mais alors pour Bookchin, c'est à peu près, on a à peu près autant d'espoir de voir l'avènement d'un capitalisme vert que d'attendre un comportement pacifique d'une société guerrière. C'est-à-dire que
ça
les principes.
Ça marche pas du tout, c'est contradictoire.
C'est contradictoire, c'est un cercle carré.
Donc ça serait des gens d'écologistes de mauvaise foi ou sincères?
Peut-être sincères, mais dans l'erreur.
Ouais.
Ou peut-être de mauvaise foi. Peut-être ont-ils raison aussi, mais j'ai tendance à ne pas y croire.
J'ai repensé.
Alors pourquoi? Parce que. Donc, ce que va dire Bookchin, c'est que les principes même du capitalisme impliquent non seulement l'injustice sociale, mais aussi l'exploitation sans frein des ressources naturelles. Pourquoi? Parce que, finalement, le capitalisme va être fondé en partie aussi sur l'idée d'une croissance infinie. Et ça pose un problème dans un monde où les ressources ne sont pas infinies. Tout bêtement. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il n'y a plus de pétrole, il arrive un moment où il n'y a peut-être plus d'ozone, il arrive un moment où il n'y a plus de baleines.
Ou même les renouvelables, de toute façon, ne peuvent plus être renouvelés parce qu'il n'y a pas les autres ingrédients.
Parce qu'éventuellement, on a foutu en l'air tout le reste.
Ouais.
Et donc, ça déjà, c'est un premier argument. Et en plus, le rêve d'une croissance infinie, non seulement il est absurde par rapport à l'état de la réalité, mais en plus il entraîne le projet d'une accumulation maximale.
Par une minorité
par une minorité qui est plus ou moins grande. On peut considérer que, je sais pas moi, que le monde occidental est une minorité par rapport au reste du monde.
Oui, c'est le cas.
Et à l'intérieur, il y a encore une autre minorité qui se gave davantage, etc., etc. Mais de toute façon, c'est toujours par une minorité.
Donc la croissance elle-même, en fait, c'est le problème.
Oui, c'est le problème de la croissance. Parce que non seulement ça va entraîner le projet d'une accumulation maximale, mais aussi ça va entraîner une compétition entre entreprises, qui est une condition de leur survie. C'est-à-dire qu'ici, c'est quelque chose de structurel. C'est pas simplement la rapacité. C'est pas simplement un problème moral, c'est le fait que dans un monde capitaliste, une entreprise pour survivre doit grossir.
Ouais.
Et sinon elle se fait bouffer par les autres. Et plus elle devient gigantesque, plus elle devient aussi centralisée.
Et ça c'est un autre problème, la centralisation pour lui.
Et ça va être un autre problème parce que le gigantisme est lié à la centralisation, le gigantisme est un problème en lui-même, parce que ça va avoir un impact sur le milieu naturel.
Et c'est qu'on perd de vue les dégâts qu'on peut faire quand le système est trop centralisé?
C'est pas seulement qu'on les perd de vue, c'est qu'en fait, peut-être qu'on les perd de vue, oui.
Parce qu'on est trop loin.
Mais la centralisation ça implique aussi le resserrement de la minorité au pouvoir. Et donc, ça augmente aussi, finalement, l'exploitation de l'homme par l'homme.
Okay.
De l'être humain par l'être humain. Alors, mais pour le gigantisme, comme dit Bookchin, là je le cite encore, le problème est moins moral que structurel, ouvrez les guillemets, c'est celui de la taille des entreprises elles-mêmes, celui de leur gigantisme et de tout ce qu'il implique pour la région où elles sont implantées. Pour ces collectivités humaines, comme pour ces cours d'eau, le problème de leurs besoins en matières premières et en eau, le problème de leur place dans la division nationale du travail. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'une grande entreprise peut installer de grandes usines, et des grandes usines...
Donc détruire beaucoup à grande échelle directement.
Vont détruire beaucoup à grande échelle, un coin particulier, et plus c'est centralisé, d'une certaine manière, plus les locaux, pour revenir à ta question, moins les locaux auront de pouvoir sur cette
pour
usine.
S'opposer, d'accord.
C'est-à-dire, tu t'opposes à une usine dans le centre, dans le siège social est à New York, t'es dans la Creuse, d'une certaine manière, ta voix n'a strictement aucun poids par rapport à ça.
Mais tu t'opposes à une usine aussi qui fournit des emplois et donc ça devient encore plus compliqué.
Oui, mais après, ça c'est l'argument classique de. En gros, ils fournissent des emplois, donc il faut les accueillir comme des sauveurs.
Voilà.
En attendant, ils sont en train de bousiller
les
rivières, les sols, etc. Et puis, comme c'est la seule source d'emploi éventuellement dans le bassin, éventuellement, ils peuvent aussi empêcher d'autres trucs de s'installer. Il y a plein de problèmes qui peuvent être posés par ça.
Alors, du coup, la solution, c'est la décroissance.
Alors,
pour lui.
J'y viendrai plus tard à la solution. Mais.
Pardon.
Parce qu'un troisième point qui met en avant, là-dessus, c'est des analyses qui sont peut-être un peu plus classiques, c'est que pour lui, l'hégémonie du capitalisme, ça va amener le problème des solutions, repose aussi sur son succès idéologique auprès de ceux-là même qui le subissent économiquement et écologiquement.
C'est-à-dire qu'on continue à penser que le capitalisme, c'est bien, même si on en est la victime.
Oui.
Globalement.
C'est ce que font plein de gens.
Oui. Non, je vérifie juste que j'avais bien compris.
Non, mais t'avais bien compris. C'est l'histoire du chauffeur de taxi qui dit qu'il va voter, New-Yorkais qui dit qu'il va voter pour Bush. Et quand on lui répond qu'il est pauvre et qu'il n'a pas intérêt à voter pour Bush, il répond, mais quand je serai riche, il me protégera. Ça, c'est une anecdote véridique. Hein. beaucoup de pauvres sont des capitalistes frustrés.
Ouais.
Parce qu'aussi, on leur a mis dans le crâne que peut-être ils pourraient devenir riches dans ce système formidable. Et donc, ils espèrent pouvoir, à leur tour, devenir réglés. Donc là, une petite phrase de Bookchin que je vous cite parce que je l'aime bien. La mise en coupe réglée de la Terre accompagne la mise en coupe réglée de l'esprit humain par le marché. Alors, bon, c'est des phénomènes qui sont là encore parallèles. Et l'idée ici, elle est très simple, c'est que si les industriels produisent pour produire, puisqu'il faut croître, il faut bien que la population consomme pour consommer.
Ah bah oui.
Sinon, ça marche pas. C'est peut-être une des raisons majeures d'ailleurs de l'abolition de l'esclavage. Un esclave ne peut pas être un consommateur. Un salarié, si. Donc, et c'est pour ça que finalement tout a été mis en place, et de façon relativement délibérée à un certain niveau, par les publicitaires, les communicants, tous les trucs de propagande. Enfin, on appelait ça de la propagande avant la Seconde Guerre mondiale, après on a parlé de communication. Mais parce qu'il fallait à tout prix que les valeurs marchandes débordent le seul secteur économique afin de créer une société de marché aussi. Où finalement, tout, plus ou moins tout, va être, au moins dans l'idéal, soumis, enfin dans l'idéal, un idéal pourri, mais un idéal quand même, aux mêmes impératifs de rendement et de croissance.
C'est-à-dire que finalement, on n'est plus en position de critiquer le capitalisme, en fait, parce que
ben, on pense en capitaliste.
D'accord, on ne voit pas tellement pourquoi.
On pense en termes de son propre rendement, sa propre efficacité, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui, est-ce que j'ai été bien productif, etc.
On pense comme ça, bien sûr.
Et donc, bon, ça envahit aussi la vie privée. Et ça va aboutir à la création donc incessante aussi de nouveaux besoins factices.
De consommation ?
Oui. Donc la consommation dont la satisfaction ne rend pas forcément beaucoup plus heureux. Alors là, Bookchin parle de fausse satisfaction. Je trouve ça un peu étrange. Quand les gens sont satisfaits, ils sont satisfaits. Ils sont peut-être satisfaits pour de mauvaises raisons, mais
alors
ils sont satisfaits.
Ça dépend. Bah non, parce que
si la satisfaction était fausse, ça craquerait au bout d'un moment. Il faut bien que la satisfaction elle soit réelle. C'est-à-dire que quand t'es content.
Oui, mais t'es content. Mais est-ce qu'après t'es moins content plus vite ?
Oui. C'est ça le problème en fait.
C'est peut-être ça la fausse satisfaction. C'est qu'il en faut toujours plus.
C'est qu'il en faut toujours plus.
Pour la même dose de satisfaction.
T'es sans doute moins content plus vite. Et puis l'autre problème, c'est que cette consommation pour la consommation est responsable d'un gaspillage absolument sans précédent.
Alimentaire.
Oui, mais alimentaire, mais pas seulement. C'est-à-dire que on est capable de construire des machines à laver qui durent 20 ans. On a les moyens techniques de le faire.
Simplement, on construit des machines qui durent 5 ans.
On construit des machines qui durent 5 ans parce qu'il faut en vendre d'autres, des nouvelles. Bon, ça, c'est comment dire, d'une certaine manière, Bookchin le voyait plus ou moins déjà, c'est l'obsolescence programmée.
Mais je sais, j'ai besoin de changer de machine.
Ouais. Alors, bon, là par contre, il n'est pas du tout dans les modes actuels de culpabiliser le consommateur. Parce que culpabiliser le consommateur comme on le fait aujourd'hui, pour lui, c'est oublier le rôle des grandes entreprises qui profitent de la situation. Il faut tout pour les tendre et la prolonger.
C'est-à-dire que tu n'as pas le choix concrètement
par exemple. Je me rappelle une fois avoir discuté avec quelqu'un qui bossait pour une grande entreprise qui produit des imprimantes. Mm-hmm. Cette personne m'avait dit, nous, notre problème, c'est qu'on construit des imprimantes qui durent 5 ans alors que la concurrence, les imprimantes de la concurrence durent 3 ans. C'était
génial.
Présenté comme un problème.
C'est incroyable. Nos imprimantes sont trop solides.
Les gens n'en changent pas assez. Donc c'est il y a 10-15 ans que j'ai eu cette conversation. Donc bon, maintenant, je ne sais pas où ils en sont. Mais ils ont trouvé d'autres moyens pour l'obsolescence, d'autres moyens qui les décrédibilisent moins, en particulier au niveau du software. C'est-à-dire on change les programmes,
on change les consommables,
les consommables. Et puis on rend les machines, on peut faire des machines solides, mais si elles ne fonctionnent pas avec les nouvelles machines qui sont moins solides, on est obligé d'en changer quand même. Donc c'est complètement ridicule comme système quand même. Bon, alors quatrième point, comment s'en sortir? Alors, Bookchin donc pense pas et pas réformiste au sens où il pense pas qu'on puisse aménager le capitalisme. Il pense qu'il faut une révolution.
Il faut sortir du capitalisme.
Ensuite, cette révolution, oui, il faut sortir du capitalisme. Ensuite, cette révolution, pour lui, elle peut pas venir d'en haut. Là-dessus, il est anticommuniste, anti-léniniste.
Il se passe pas une grosse révolution qui fout tout en l'air.
C'est en tout cas, on peut pas prendre le pouvoir et espérer tout changer. Mm-hmm. Plus la révolution, elle doit partir d'en bas et elle doit partir d'un mouvement de décentralisation du pouvoir.
Par étape alors ?
Par étape,
ouais.
Avec ce qu'il appelle le municipalisme libertaire au début, après il appellera donc ça le communalisme. Et c'est l'idée qu'il faut finalement donner le pouvoir. En fait, c'est simple, hein, c'est donner le pouvoir aux gens.
Il faut fonctionner par petites unités ?
Oui, petites unités.
De façon à ce que ça puisse continuer à fonctionner ?
De façon à ce qu'on puisse avoir finalement un pouvoir sur sa vie.
À l'échelle locale.
À l'échelle locale.
Mais il n'y a pas de décision à l'échelle nationale alors pour lui ?
Non, pour lui ça doit aller de bas en haut.
D'accord.
Les gens décident de ce qu'ils veulent pour eux. eux, là où ils sont.
Okay.
Ce qui fait que il a tendance à penser que cette démocratie directe est directement liée à l'écologie. Et je peux comprendre pourquoi. C'est, on lui a reproché que le lien était comment dire, était pas forcément juste. Alors, ce qu'il pourrait répondre, lui, c'est que les gens ont tendance à plus se soucier de leur milieu naturel,
ah oui, c'est évident,
que du milieu naturel de personnes comment dire, qui sont à 500 km.
Et oui, à moins que ce soit des ours polaires mignons sur leurs icebergs.
Alors, on a pu voir que, par exemple, certains agriculteurs, parfois, étaient totalement anti-écolo parce qu'eux, ils sont pour leur méthode de production industrielle. Enfin, c'est pas sûr que, je suis pas sûr que là-dessus, que son idéal de démocratie directe aboutisse nécessairement à un soin apporté à l'environnement.
Si l'agriculteur, il peut pas vendre plus que ça parce que son marché local est limité.
C'est possible aussi, effectivement, dans un cadre local. Mmh. Et puis, si en plus il y a moins de pression à la consommation, il est possible aussi que ses besoins soient resserrés à des choses plus intéressantes, plus essentielles, et peut-être aussi plus satisfaisantes. Bookchin rêve un peu de, voilà, il rêverait qu'on ait des objets plus solides. Plus beau, fait par des gens qui sont contents de les faire, des objets auxquels on peut s'attacher, parce qu'on les a depuis longtemps et qu'ils ont une histoire, etc., etc. Et de ce point de vue-là, il est pas du tout anti-techno parce qu'il pense que la technique peut libérer du temps, peut aussi aider à faire de plus beaux objets, plus solides, etc., etc. Là-dessus aussi, on pourrait lui faire deux trois objections, parce que si on prend par exemple la micro-informatique. Toute l'informatique domestique, elle a été rendue possible par des investissements massifs de l'État américain dans le secteur militaire pour le développement justement de l'informatique. Et ça a ensuite été, les brevets étant libre accès, ont été donnés gratos aux entreprises privées. Mais c'était à partir de budgets d'État militaires absolument colossaux aussi. Donc est-ce que...
ça aurait pu se faire autrement peut-être.
Peut-être que ça aurait pu se faire autrement, je ne sais pas. La centralisation peut aussi parfois mobiliser d'énormes moyens.
Oui.
Est-ce que c'est pour le bien, est-ce que c'est pour le mal, je ne sais pas. Mais bon, on peut se poser la question de savoir si, au point où on en est, le progrès technique ne suppose pas...
une centralisation.
De gros trucs.
Oui.
Ce qui n'est pas forcément un bien, demeurant.
Non.
En définitive.
Mais est-ce qu'on revient en arrière après, c'est ça la question.
Ou est-ce qu'on reste un état satisfaisant, je ne sais pas. C'est compliqué. Mais donc, il y a cette idée de municipalisme libertaire qui est très très anarchiste, et justement d'une révolution qui serait graduelle et qui partirait d'en bas et qui impliquerait une refonte presque totale, finalement, de nos modes de vie, de nos modes de pensée et de nos modes d'organisation politique. Et pour Bookchin, on peut arriver quand même, malgré tout, une société d'abondance. Mais ce ne serait pas une vraie société d'abondance, qui ne serait pas une société
d'abondance locale.
D'abondance locale, et ce ne serait pas une société de gaspillage. Voilà, donc je vais arrêter ici. J'ai déjà beaucoup trop parlé. C'est Chien et Loup qui reprend l'antenne après un morceau de musique. Voilà, donc à dans deux semaines.
How much is the fish? How much is the fish? Does the fish have